Emma, bon, qui présente, bon, vous avez beaucoup insisté dans votre livre sur les formes, bon, et en même temps l'espace pictural, architectural, et puis ensuite vous arrivez sur l'espace filmique, mais comment il arrive en fait à nous représenter d'histoires qui nous interrogent sur nous-mêmes, sur la destinée, je dirais, de l'humanité, et qui sont de véritables tragédies, même s'il y a du happy end. On pourrait revenir d'ailleurs sur le problème du happy ending chez Murnau. Mais c'est véritablement, enfin, il nous émeut avec des choses qui nous interrogent sur la destinée de l'homme, le sens, la signification de notre vie. Je veux dire, par exemple, quand on voit dans l'aurore la barque, bon, et les personnages confrontés aux éléments naturels, la tempête, etc., on a l'impression ça nous renvoie à quelque chose de notre origine d'homme, c'est-à-dire on se sent extrêmement fragile. Je crois que c'est un des rares cinéastes, peut-être avec Dreyer, et bon, c'est peut-être pas un hasard, puisque c'est peut-être le Nord aussi, qui soit arrivé à le traduire. J'aimerais que vous en disiez peut-être plus sur ce sentiment de traduire, je dirais presque l'origine de l'homme, quelque chose de notre destinée.
Oui, il est certain que les sujets de Murnau sont des sujets plus ambitieux, ben, littérairement plus ambitieux, que la plupart des sujets de son temps. Je pense même que de son temps, dans ce domaine, si vous voulez, de rivaliser avec ce que la littérature avait de plus haut, on ne peut pas aller plus loin, parce qu'il a traité de grands sujets. Il a traité Faust, qui était un chef-d'œuvre, il a Tartuffe, non, des romans comme Le Fantôme, de Gerhard Hauptmann, je ne peux rien dire des autres romans, je suis qui a inspiré l'aurore, je ne sais pas quelle était la valeur de la littéraire du roman, etc. Bon. Mais vous me direz que ça, c'est pas une preuve, et qu'on peut faire du mauvais cinéma avec la bonne littérature qu'on a fait. C'est peut-être dans l'esprit, si vous voulez, qu'il a apporté dans l'adaptation, la transcription de ses œuvres, qu'il se montre plus ambitieux que dans son temps. En tout cas, il est très éloigné de la conception naïve et mélodramatique de Griffith, de la conception naïve et enfantine, il faut le dire, malgré son génie, de Fritz Lang, puisque inspiré d'une histoire policière, et sur des scénarios de théâtre d'Arbou, en fait, qui sont des scénarios très, disons.
Ils ont travaillé
de ce côté.
Ensemble, hein,
Théâtre d'Arbou
a écrit aussi pour
Murnau. Rappelez-moi.
Je crois que c'est Fantôme, il me semble.
Oui, il a travaillé dans Fantôme, oui. Je crois.
Il y a un scénario qui est Théâtre d'Arbou.
Mais il n'y a pas ce côté, disons, sans. Non pas péjoratif, mais enfin, un peu puéril de langue. En fait, ce côté, bon. Ce côté bande dessinée, si vous voulez, qui est davantage, et roman d'aventure, en fait, qui est chez là. Donc, il y a effectivement une très grande ambition, une ambition de. Oui, comme vous. Enfin, si vous voulez, moi je dirais que. Pour moi, Murnau, enfin, je ne me place peut-être pas exactement de ce point de vue, sans m'y placer tout à fait, parce que pour moi, il m'est difficile de dissocier la forme et de dépasser le fond. Bon. C'est-à-dire qu'il y a. Murnau a traité, sous des formes différentes, un problème, par exemple, qui n'est pas un problème, qui n'est pas traité par Griffith, à mon avis, et qui n'est pas traité par Lang, pour prendre d'autres termes cinéastes. Je pense que Murnau s'attaque de front à ce qu'on pourrait appeler enfin, le problème de l'être. Et là, je vois qu'il y a très peu de cinéastes dans l'histoire du cinéma qui aient abordé ce problème. Enfin, je crois que, de ce point de vue, on pourrait le rapprocher de quelqu'un d'un ancien appelant comme Renoir. Bon. Mais Dreyer, je ne sais pas. Dreyer, moi je préfère, personnellement, je pense que Murnau, de ce côté-là, en ce qui concerne l'être de l'homme dans le monde, me satisfait plus, peut-être, me fait aller plus loin que Dreyer, mais ça c'est peut-être une question d'affinité. Enfin, voilà ce que je réponds, pour montrer à quel point, quelle admiration je tiens pour Murnau. Et puis alors, il y a ce film Le Dernier des Hommes. Qui, alors lui, est un très grand moderniste, enfin, qui annonce déjà une littérature moderne, enfin, disons que les hommes annoncent déjà Beckett. Enfin, là, mais c'est, on ne pourrait pas dire ça, cela des autres films, qui ont une texture plus classique et où la modernité est plus à chercher, si vous voulez, dans la mise en scène plutôt que dans l'argument.
Murnau est mort jeune, avec une œuvre, bon, très très inachevé, puisqu'on ne sait pas très bien quelle direction elle aurait pu prendre. Mais j'ai le sentiment que dans le cinéma, il a laissé, il est comme une grande ombre qui plane sur le cinéma et qu'il a des héritiers. Moi, je verrai pas mal de films qui sont influencés par Murnau. Bon, par exemple, La femme au corbeau de Borzage, ou même, par exemple, j'ai l'impression que même certains Hitchcock, comme Vertigo ou autres, peut-être, je sais pas, hein, mais on peut peut-être trouver la trace de l'influence de Murnau. Bon, là, je finirai donc sur cette dernière question. Est-ce qu'il y a des héritiers pour vous de Murnau dans
oui,
le cinéma?
Oui, alors, excusez même que vous. Bon, alors, Hitchcock, oui et non, oui. Enfin, c'est-à-dire que, d'un point de vue, Hitchcock, comme Murnau, est un grand créateur de forme. Et les grands créateurs de forme se ressemblent, parce que, si vous voulez, quelqu'un qui est riche, qui a de l'invention dans la forme, eh bien, fait comme a fait Murnau, enfin, d'une façon incomparable, c'est-à-dire que il mobilise toute la surface de l'écran, si vous voulez. C'est quelqu'un qui a une richesse. Bon. Or, il est certain que chez Murnau, il y a des images dans lesquelles, eh bien, il y a une utilisation, si vous voulez, de la richesse, de l'étendue spatiale de l'écran, alors, en fait, de toutes ces possibilités plastiques, qui est extraordinaire, mais donc, de ce point de vue, se ressemble. J'aimerais mieux le comparer d'une autre façon, si vous voulez, enfin pour la profondeur de sa visée, si vous voulez. Je préfère le comparer, par exemple, à Renoir, chez qui il y a également un thème, le thème de la nature. Le thème de la nature est très fort. Alors, le thème de la nature est très fort chez Renoir. Mais le thème de la nature, non pas pris d'une façon superficielle et pittoresque, si vous voulez, comme la beauté du paysage, mais comme, qu'est-ce que la nature? La nature, c'est la nature, la vie, c'est-à-dire le déroulement, si vous voulez, d'un être, la naissance et la mort. Bon. Or, le thème fondamental de Murnau, et qui devient en même temps un thème plastique, c'est l'éclosion et le flétrissement. C'est-à-dire, c'est un mouvement, comme je l'ai expliqué dans Faust, dans le livre que j'ai écrit sur le Faust de Murnau, où c'est très très net, c'est peut-être le film dans lequel c'est le plus net, et chez Murnau, il y a un double mouvement d'expansion et de contraction. L'expansion exprimant la vie, exprimant le progrès, la naissance, etc., la croissance, et au contraire, la contraction exprimant le flétrissement et la mort. Et on trouve ce thème, à mon avis, plus dans un cinéaste comme Renoir, parfois chez Rossellini aussi, par exemple dans un film comme Stromboli ou comme Voyage en Italie, que chez Hitchcock, que j'aime beaucoup, mais ces thèmes sont plus liés à ce qu'on pourrait appeler l'action. Il s'agit moins, c'est un cinéaste c'est un cinéma de l'acte plutôt que de l'être. Voilà ce que, de même que le cinéma de Fritz Lang. Non, j'aimerais comparer plutôt Murnau, c'est très paradoxal d'ailleurs, et un film de Murnau m'est incité, j'aimerais mieux comparer Murnau à un autre cinéaste américain, qui paraît en apparence tout à fait différent de lui, qui n'a pas aucun rapport, mais avec qui profondément il y a des affinités. C'est Howard Hawks. Parce que il y a chez lui également une conception de l'être en tant que tel, et qui apparaît surtout dans certaines comiques, et certaines scènes comiques de Murnau sont assez proches du comique hawksien, si on peut dire. C'est-à-dire un comique qui n'est pas fondé sur le pressentiment, qui n'est pas fondé sur l'intelligence, mais qui est fondé simplement sur la nécessité. C'est-à-dire, il est nécessaire que quelque chose arrive, et c'est une chose qui est prévisible, c'est une chose qui ne peut pas ne pas arriver, et qui pourtant ne devrait pas arriver. Et pourtant elle arrive, et c'est ça qui fait rire. Et dans un film de Murnau qui est peu connu, et que je présenterai d'ailleurs dans 8 jours au musée d'Orsay, qui s'appelle Les Finances du Grand-Duc, eh bien il y a un ton de comédie, c'est un film de comédie, enfin, il y a déjà un ton de comédie américaine, qui me fait penser plus qu'à Lubitsch, auquel on l'a comparé, à Howard Hawks. En particulier dans le passage où une jeune femme se déguise en vieille femme. Et dans nombre de films de Hawks, nous avons également ce thème du déguisement et d'un déguisement burlesque. Et voilà pourquoi je me permets cette comparaison.
Je voulais justement vous demander pourquoi vous aviez choisi Les Finances du Grand-Duc.
Eh bien, je viens de vous donner ma réponse, précisément. C'est pour pouvoir un peu faire un rapprochement entre ces deux cinéastes que j'aime beaucoup et qui sont des cinéastes difficiles, enfin, des cinéastes et qui résistent un peu à l'analyse et sur lesquels, par conséquent, on peut aimer à parler.
Je vous remercie, Eric Romer.
Alors, voilà, c'était Eric Romer à propos de Murnau. Et alors, je voudrais, avant qu'on écoute de la